journal de Laura Dulieu. Bonjour Laura.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. L'Union européenne va plafonner certaines importations agricoles venues d'Ukraine. Un accord a été trouvé cette nuit, une réponse directe à la colère des agriculteurs.
Alors qu'Israël continue de bombarder la population gazaoui, l'État hébreu et l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens continuent de s'opposer en ligne. Une ONG révèle une campagne de dénigrement de l'UNRWA sur Internet au profit d'Israël.
Et puis la droite révèle le troisième nom de sa liste pour les élections européennes. Il s'agit d'un ancien patron du renseignement militaire français. Enfin, OpenAI, entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle, a conclu plusieurs contrats avec des groupes de presse. Nous verrons quelles en sont les conséquences. Certaines importations agricoles ukrainiennes vont donc être plafonnées à partir du mois de juin. Les États de l'Union européenne et le Parlement européen ont trouvé un accord cette nuit. Accord qui certes reconduit pour un an l'exemption de droits de douane accordée depuis 2022 à l'Ukraine, mais qui limite certaines denrées dont l'importation perturbe le marché européen. Une réponse directe aux agriculteurs en colère. La Commission européenne avait proposé de plafonner les importations sans droits de douane de volailles, de sucre et d'œufs. Les États membres et les eurodéputés y ont ajouté l'avoine, le maïs, le gruau et le miel, Angélique Bouin.
La Commission européenne avait déjà proposé de plafonner les importations sans droits de douane de volailles, de sucre et d'œufs. Sous pression des agriculteurs, les capitales et les eurodéputés y ont ajouté l'avoine, le maïs, le gruau et le miel. Pour le blé et d'autres céréales, elle pourra aussi déclencher un mécanisme d'urgence et imposer des mesures de restriction dont on n'a pas le détail à cette heure-ci. Tout cela dans un délai de réaction rapide, 14 jours contre 21 initialement prévus. Ces mesures visent à rassurer en particulier les agriculteurs des pays de l'Est très impactés, mais aussi à remettre un peu d'ordre dans le marché unique. Plusieurs pays, dont la Pologne, avaient en effet pris ces dernières années des mesures restrictives unilatérales. En France, les producteurs de volailles, notamment, se plaignaient de leur côté de voir arriver sur les étals du poulet à prix cassé. La filière sucre est également très déstabilisée. À compter de juin prochain et sous réserve d'une validation officielle de cet accord nocturne, la Commission aura donc les moyens d'intervenir pour freiner ces importations. Mais avec la reprise du trafic en mer Noire, les exportations de produits agricoles ukrainiens vers le reste du monde ont repris, souligne une source diplomatique. Le marché européen devrait donc en 2024 être moins impacté que l'an dernier. L'accord de cette nuit réaffirme l'engagement continu de l'Union européenne de soutenir l'Ukraine face à la Russie, tout en répondant aux préoccupations des agriculteurs, se félicite dans un communiqué le Parlement européen.
Et voilà pour les questions agricoles sur le plan sportif, cette fois et diplomatique. Le Comité international olympique a tranché. Pas de parade sur la scène pour les athlètes russes et biélorusses, même sous bannière neutre. Ils ne participeront pas à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris le 26 juillet prochain. Ils ne seront pas non plus comptabilisés dans le tableau des médailles. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est attendu aujourd'hui au Moyen-Orient pour tenter d'arracher une trêve de plusieurs semaines à Gaza, où la famine menace toujours la population. Tandis que le conflit entre Israël et l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, se prolonge en ligne. Lundi, Philippe Lazzarini, le chef de l'UNRWA, affirme avoir été empêché d'entrer à Gaza. C'est faux, répondent les Israéliens qui évoquent une erreur administrative dont l'UNRWA serait responsable. Depuis plusieurs semaines, les premiers accusent Israël de frapper leur personnel et leurs infrastructures sans discernement. Les seconds disent avoir des preuves de l'implication d'employés de l'agence dans les attaques du 7 octobre. Un collectif de chercheurs israéliens sur les réseaux, l'ONG Fake Reporters, a débusqué une campagne ingénieuse de dénigrement de l'UNRWA sur Internet au profit de l'État hébreu. Les précisions de Thibault Lefèvre.
C'est ce qu'on pourrait appeler une campagne d'amplification. Il s'agit d'abord de s'emparer de faits réels racontés dans des médias traditionnels comme CNN ou Le Guardian, puis de les relayer sur des sites de faux organes de presse qui semblent à première vue tout à fait crédibles, et ensuite de s'appuyer sur de faux comptes sur les réseaux sociaux pour donner plus d'écho à ces informations. Dans le cas du conflit entre Israël et l'UNRWA, 500 profils fictifs ont abondamment diffusé sur Instagram, Facebook et X des articles qui traitaient notamment de l'implication présumée d'employés de l'Agence des Nations Unies dans les attaques du 7 octobre. La cible, des sénateurs et des députés afro-américains démocrates sensibles à la cause palestinienne. Aïa Schatz est le directeur exécutif de l'association Fake Reporter qui a débusqué la manipulation.
The difference between this kind of operation and fake news La différence entre ce type d'opération et des fake news, c'est qu'elles sont portées par des gens qui semblent normaux. Elles s'appuient sur des profils qui n'existent pas, mais qui soutiennent les messages d'Israël. C'est un autre champ de bataille de cette guerre, et ça concerne chacun des deux camps.
Il y a quelques semaines, l'association Fake Reporter a dénoncé des campagnes de désinformation favorables au Hamas. Elles ont été lancées d'Iran et de Russie.
Thibault Lefebvre. Le Canada a annoncé cesser l'exportation d'armes vers Israël, tout en précisant qu'Ottawa n'a exporté que des armes non létales depuis le 7 octobre. À Hong Kong, les débats ont été pour le moins expéditifs. Le Parlement de Hong Kong a voté hier à l'unanimité un nouvel arsenal répressif. L'article 23 de la Basic Law sur la constitution hongkongaise durcit encore un peu plus la loi sur la sécurité nationale imposée il y a 4 ans par la Chine pour étouffer toute voix dissidente. Ce nouveau tour de vis inquiète le milieu des affaires et la communauté étrangère dont la présence s'est déjà fortement réduite dans l'ancienne colonie britannique. Valérie Crova.
L'article 23 a longtemps été une ligne rouge pour les Hongkongais. Le souvenir de 500 000 personnes manifestant contre son adoption est resté dans toutes les mémoires. C'était en 2003. 21 ans plus tard, le Parlement de Hong Kong, acquis à Pékin, l'a adopté en un temps record. Aux crimes politiques de subversion et de sécession s'ajoutent désormais la trahison et l'insurrection, passibles de la prison à vie, l'espionnage et le sabotage, ainsi qu'un nouveau crime au contour flou, celui d'interférence extérieure.
On ne sait pas ce que c'est, ce qui permet à peu près de mettre n'importe quoi.
Jean-Philippe Béja, chercheur au Centre d'études et de recherche internationale.
Vous avez Hong Kong qui est une cité mondiale, qui est le siège de la plupart des multinationales qui font des affaires en Chine. C'est un véritable problème pour la plupart des Hongkongais qui travaillent pour ces multinationales. Tout contact avec un étranger ou un représentant d'une entreprise étrangère, ou d'un gouvernement étranger ou d'une université étrangère peut être considéré comme une violation de l'article 23. C'est l'arbitraire le plus total.
Ce copier-coller de la législation appliquée en Chine continentale est une atteinte de plus aux droits et libertés des Hongkongais. S'est ému David Cameron, le chef de la diplomatie britannique.
Valérie Crova.
8h07 sur France Culture. La suite du journal de Laura Dulieu. Les listes des différents partis pour les élections européennes se révèlent peu à peu.
Et on en sait un peu plus sur celle de la droite. Un ancien patron du renseignement militaire français, le général Christophe Gomard, prend la troisième place de la liste Les Républicains, derrière François-Xavier Bellamy et l'exploitante agricole Céline Imard. Et avec ce Saint-Cyprien habitué des plateaux de télévision, le tout dans une campagne pour l'instant largement marquée par les enjeux autour de l'Ukraine, les LR s'offrent le profil régalien qu'ils cherchèrent, Rosalie Lafarge.
Les responsables ne cachent pas leur satisfaction d'avoir réussi à convaincre le général, le patron du parti, Éric Ciotti, est loin d'être à court d'arguments.
Christophe Gomard a un parcours dense, riche, impressionnant. Son CV prestigieux, mais il a servi la France au plus haut niveau. Pouvoir disposer de l'expérience, de la compétence, de la maîtrise de ces sujets militaires et géopolitiques est naturellement un atout.
Un atout pour redonner de la crédibilité au LR, insiste Éric Ciotti, convaincu de la puissance de son coup politique et de ses conséquences au niveau national, quand la tête de liste, François-Xavier Bellamy, s'attache à replacer la nouvelle recrue à l'échelle européenne.
Son regard, son expertise seront absolument essentiels dans cette campagne, bien sûr, pour porter une ligne claire, notamment une ligne efficace dans le soutien aux forces ukrainiennes qui sont aujourd'hui en première ligne face aux menaces qui ciblent l'Europe, mais aussi, bien sûr, à moyen et long terme, au Parlement européen, pour faire entendre la voix de la France dans ces débats nécessaires pour notre propre sécurité.
Encore faut-il pour cela être élu et donc dépasser au moins les 5% des suffrages. Le 9 juin, score non atteint par les LR à la dernière présidentielle, mais le général Christophe Gomard veut y croire.
J'aime bien le risque. Et la devise du régiment que j'ai eu l'honneur de commander, c'était « au-delà du possible ». Au-delà du possible, rien n'est impossible. Et je pense qu'il est tout à fait possible qu'on aille bien au-dessus des 5% nécessaires, effectivement, pour être présent au Parlement européen.
À 3 mois du scrutin, rien ne permet de garantir à la droite française le sauvetage de ses 8 sièges actuels au Parlement européen. Et avec déjà 2 nouveaux visages sur les 3 premiers non connus de la liste, les places éligibles restantes deviennent de plus en plus chères pour les sortants qui voudraient rempiler.
98 personnes ont été interpellées hier dans les Bouches-du-Rhône et principalement à Marseille lors de la première opération appelée PlaceNet XXL contre le trafic de drogue. Alors qu'Emmanuel Macron s'est rendu hier à Marseille pour une visite surprise à la cité Castellane confrontée au trafic de drogue, le chef de l'État a promis que les forces de l'ordre allaient, je cite, « pilonner le territoire ». Une dizaine d'opérations de ce type sont prévues partout en France. Elles devraient durer plusieurs semaines. Jean Lemarié y reviendra dans son billet politique juste après ce journal. La ville de Strasbourg interdira bien la circulation des véhicules critère 3 à partir du 1er janvier 2025. Et ce, malgré l'autorisation finalement délivrée à Marseille, Rouen et Strasbourg de laisser rouler ces véhicules grâce à la qualité de l'air qui s'est améliorée dans ces métropoles. Les trois villes devaient poursuivre la mise en place de leurs ZFE, les zones à faible émission, en interdisant les véhicules diesel de plus de 14 ans et à essence de plus de 19 ans. Marseille et Rouen comptent bien renoncer à cette interdiction qui ne concernera donc plus que Paris et Lyon. Les indicateurs de résultats des lycées et collèges sont publiés ce matin par le ministère de l'Éducation nationale au lendemain d'une journée de mobilisation de la fonction publique lors de laquelle les professeurs ont protesté entre autres contre la mise en place des groupes de besoins en français et en mathématiques à la rentrée pour les élèves de 6e et de 5e. Ces indicateurs permettent d'évaluer les performances des établissements à travers notamment leurs résultats aux examens, à travers le profil social des élèves ou encore le nombre de redoublants. Et on s'intéresse ce matin aux résultats des établissements en zone rurale qui appliquent des méthodes pédagogiques innovantes, à l'image du collège Jean Follin dans la commune de Canissy, dans l'académie de Normandie. Un collège arrivé en tête des établissements publics dans la Manche l'année dernière, avec notamment 100% de réussite au brevet des collèges. Le reportage d'Hakim Kasmi.
On va poursuivre le projet qu'on a commencé ensemble.
Dans cette classe de 3e, les professeurs de français et de mathématiques travaillent en co-intervention à raison de 2 heures par semaine. C'est le principe des EPI, enseignement pratique interdisciplinaire. Et cette année, les enseignants choisissent pour thème les artistes engagés, ce qui leur permet de travailler à la fois l'écriture, la lecture en français, mais également les mathématiques en leur demandant de réaliser un autoportrait en travaillant sur la géométrie. Alice Gonnet, leur professeur de français.
Quand je les mets face à une leçon de grammaire, pour certains élèves, c'est complètement abstrait. Ils voient pas l'intérêt, à quoi ça va me servir demain. Finalement, là, ils ont besoin d'utiliser ces compétences-là. Ils se rendent compte que pour faire un contenu qui va être compréhensible pour tout le monde, eh bien oui, il va falloir que je fasse des phrases correctes. Il va falloir que j'arrive à m'exprimer. Et le fait que ce soit sous forme de projet, ils travaillent pas tout seuls. Justement, ils travaillent en groupe. Souvent, on essaie de faire des groupes plutôt hétérogènes. Donc, les élèves qui sont plus à l'aise dans des compétences d'écriture, de grammaire, ils vont aider ceux qui sont plus fragiles. Et au final, on aura une production aboutie pour tout le monde.
Un dispositif pédagogique qui a fait ses preuves, car depuis l'année dernière, l'ensemble des élèves ont vu leurs résultats s'améliorer. À l'image de Victoire, qui est en 3e.
Par exemple, les points de vue des écrivains dans un texte, et ça m'a aidé à mieux comprendre. Puis même les translations, les symétries, les isométries en maths qu'on a revues. Parce que c'est plus ludique, disons, qu'un cours normal. Donc, puis on est souvent en groupe, donc ça permet d'essayer de comprendre à plusieurs différentes choses.
Enfin, si ce dispositif a permis à l'établissement d'obtenir 100% de réussite au diplôme national du brevet l'année dernière, les professeurs espèrent qu'avec la mise en place des groupes de niveau à la rentrée, qui vont demander beaucoup de moyens humains et financiers, que leur projet pédagogique ne sera pas remis en cause.
Le reportage d'Hakim Kasmi. Quand l'intelligence artificielle infiltre la presse, le journal Le Monde a annoncé la semaine dernière avoir conclu un contrat pluriannuel avec la société OpenAI, la start-up américaine à qui appartient le désormais célèbre robot conversationnel ChatGPT, a également annoncé un accord avec le groupe espagnol Prisa Media. Alors qu'est-ce que ce genre d'accord présage pour la presse? Élément de réponse avec Hélène Combis.
Lorsque ChatGPT est sorti, fin 2022, de nombreux médias lui ont interdit l'accès à leur contenu. Face à cette levée de bouclier, la société OpenAI a démarché les grands de la presse comme le journal Le Monde ou le groupe espagnol Prisa. Elle leur a offert de les rémunérer en droits voisins s'ils autorisaient à son robot intelligent l'accès à leur contenu. Pour Virginie Clève, consultante en stratégie digitale et spécialiste médias, ces négociations directes des médias de référence avec OpenAI risquent de rendre plus difficiles les négociations globales de l'ensemble de la profession.
La difficulté pourra être évidemment pour les plus petits acteurs qui, en dehors des organisations qui représentent l'ensemble de la profession, vont avoir bien du mal à se faire entendre et à être rémunérés comme il se doit.
Pour se démarquer, ces plus petits vont devoir traiter l'actualité sous des angles très singuliers. D'autant plus qu'un autre danger guette, encore en phase de test aux États-Unis, il a pour nom Google SGE. Ce nouveau moteur de recherche conversationnel et intelligent, futur rival de ChatGPT, va lui aussi rebattre les cartes des audiences générées par les moteurs de recherche. Ces parts d'audience, appelées SEO, sont aujourd'hui considérables pour la presse. Elles vont de 30% pour des médias comme Le Monde et L'Équipe à 70% pour certains magazines People. Virginie Clève.
Difficile aujourd'hui de prévoir quels vont être les impacts sur l'audience des groupes médias en France. De quel pourcentage à la baisse, c'est encore difficile de le dire. Et en parallèle, il existe d'autres produits Google, comme Google Actualité ou Google Discover, qui en revanche sont toujours en croissance et donc peut-être que l'un compensera l'autre.
Google Discover, c'est ce flux d'actualité personnalisé mis en place par le géant du web en 2018. Il représente plus de la moitié, parfois même bien plus, de l'audience SEO des sites médias. Et tant qu'il n'est pas à son tour révolutionné par la technologie du langage, pas de quoi s'inquiéter outre mesure, selon la spécialiste média.
Hélène Combi, c'est ce matin du soleil sur quasiment tout le territoire. Il fait de 4 à 12 degrés du nord au sud.